on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Et on va tout de suite démarrer, Rémi, avec l'affaire du jour.
L'affaire Grégory peut être relancée près de 40 ans après la mort de l'enfant. La justice ordonne de nouvelles expertises à la demande des parents de Grégory. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a demandé de nouvelles comparaisons ADN, notamment sur des cordelettes, sur le blouson que portait l'enfant, ainsi qu'une étude de faisabilité d'expertise vocale des enregistrements du corbeau.
Laurent Dandrieux, c'est bien qu'on fasse encore des expertises, qu'on relance l'enquête 40 ans après, ou à un moment, il faut se résoudre au fait qu'on ne saura pas.
Oui, j'imagine qu'évidemment, le point de vue de la famille n'est pas le même que celui du quidam que je suis, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'une certaine lassitude, d'une histoire sans fin qui n'aboutit jamais à rien de toute façon. Je suis pas très fort en matière de prescription, mais j'imagine qu'on doit pas être loin de.
Non, puisqu'il y a.
C'est imprescriptible.
Et puis, de toute manière, tant qu'il y aura des actes de procédure, ça arrête la prescription.
D'accord.
Et c'est ce qu'on appelle un cold case.
Un cold case, ouais.
Voilà. Tant qu'on n'a pas le coupable, l'enquête sera indéfiniment ouverte. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on ait cette chance de pouvoir utiliser des moyens technologiques qu'on n'avait pas à l'époque.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc, on aura peut-être un jour, et vraiment, je le souhaite, la manifestation de la vérité et le coupable.
Vous vous rappelez qu'un des corbeaux qui avait écrit une lettre
absolument
à l'époque de la mort a été identifié. C'était quelques jours après pour revendiquer. Et en fait,
absolument,
c'était une dame qui n'avait rien
absolument
à voir avec l'affaire.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Qui était une escroc et qui s'était amusée à l'époque à écrire cette lettre de revendication aux parents.
Il ne faut jamais lâcher.
On l'a identifié grâce à l'ADN. Alors,
et souvenez-vous de l'affaire du Grélé.
Absolument,
ça faisait 30 ans et on a retrouvé le Grélé grâce à l'ADN. Et je ne sais pas si vous avez suivi cette série extraordinaire sur France 2 qui s'appelle Sambre, sur le violeur de la Sambre. Et en fait, il avait fait une centaine de viols. Et en fait, on a réussi à le retrouver, alors pas par l'ADN, mais finalement pas par un concours de circonstances.
Il avait commencé dans les années 80.
Mais 40 ans après, j'imagine, voilà, pour les familles, une délivrance, bien sûr.
Extraordinaire.
Au-delà de l'aspect judiciaire, moi c'est l'aspect sociétal. Notre génération, 54 ans, j'avais 14 ans à l'époque,
absolument,
je veux dire, toute notre génération a été marquée par l'affaire Grégory. D'ailleurs, c'est l'affaire du petit Grégory, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et pour les gens plus jeunes, c'était un truc de dingue. Et surtout, ça a été un grand point de réflexion sur le travail de la presse, parce qu'il y a eu des abus dingues sur l'histoire de la gendarmerie aussi. La gendarmerie qui, à la télévision, demandait aux gens d'aider, aux journalistes d'aider. Il y a eu des abus dans tout ça. Jean-Michel Lambert, le juge qui a été traîné dans la boue, etc., a fait un livre et s'est suicidé il y a quelques années. Non, c'est vraiment une affaire qui a marqué l'histoire de France. Je veux pas dire que c'est l'affaire Dreyfus, mais c'est au niveau de l'impact quelque chose qui marque toute une génération et voire plusieurs générations. Donc quelque part, alors au-delà de l'aspect familial horrible, etc., en tant que spectateur de ça, moi j'ai envie de savoir, comme dans une série en fait. C'est terrible de le dire, mais on a envie de savoir qui est le coupable.
En même temps, on peut dire que pour l'affaire du pont de Ligonnès, si ces affaires-là sont résolues un jour, ce sera une très mauvaise nouvelle pour les médias, parce que l'incertitude entretient la possibilité pour les médias de feuilletonner indéfiniment.
Malheureusement, il y a d'autres affaires qui éclateront.
L'affaire du pont de Ligonnès, quand ils ont arrêté là il y a pas longtemps le faux, vous avez du pont de Ligonnès. Moi personnellement, j'ai passé une nuit blanche que je regardais partout. J'étais tellement fascinée, je me disais mais c'est incroyable, etc. Et en fait, parce que c'est une histoire qui nous a marqué.
Si un jour on nous dit mais en fait du pont de Ligonnès il est mort à telle date machin,
oui,
mais du coup ça arrêtera net les spéculations et des gens.
Non, parce qu'il y aura des livres qui seront écrits. Il y aura une série sur Netflix,
mais des affaires comme ça, il y en aura d'autres.
Il y a eu l'affaire Seznec, par exemple. Il y a encore des procès qui sont faits après. Et là-dessus, je sais que je n'aime pas trop mon époque, mais avant dans les journaux, il y a 100 ans, ce genre d'affaires, il y avait les mêmes dérives journalistiques, etc. C'est-à-dire qu'il y avait le même intérêt morbide des gens, etc.
C'est pas un intérêt morbide. Tu fais automatiquement un transfert, ça te touche. Parce que ça te fait penser, le petit Grégory, ça te fait penser pour certains à leur enfant, pour d'autres, leur neveu, leur nièce. On n'en sait rien.
Mais ce sont des personnes comme tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde.
Absolument.
Tu prendrais un roman.
Exactement.
C'est un reflet de la réalité.
Voilà. Les adoptions du jugement.
Le président Emmanuel Macron a accueilli au sein du palais de l'Élysée deux lévriers. Lévriers offerts lors de son voyage officiel au Kazakhstan en novembre dernier. Baptisés Jules et Jeanne, ces nouveaux membres de la famille présidentielle ont été immortalisés en compagnie de leur maître et du labrador Nemo dans une photo publiée il y a quelques jours sur Instagram.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison d'accepter ces lévriers, Yael Mellul? Parce que bon, bah, à l'Élysée, il a la place, mais enfin, après, s'il vit en appartement, c'est vrai que... Et puis, on sait qu'il ne faut pas acheter d'animaux en cadeau. On ne cesse de le répéter. La SPA ne cesse de le répéter.
Adopter. Non, c'est bien, il a raison. Voilà, ça lui fait trois. Ça lui en fait trois. Oui. Voilà, trois gros chiens. Parce qu'ils sont... Oui, ils sont imposants quand même. Voilà.
C'est pas gros, c'est grand, un lévrier.
C'est grand, voilà. C'est grand, mais voilà, mais ça participe, on va dire, que c'est raccord avec cette espèce de. Je trouve ça affligeant, mais bon, voilà, cette espèce de crise d'ado qu'il a l'air de faire en ce moment.
Les ados, lévriers, ils ont des baskets Nike à la limite, mais.
Non, moi ça me fait penser à ces photos qu'on a vues de lui dans son déguisement de boxeur, là. C'est un petit peu cette image viriliste, voilà, du mec avec, voilà.
Alors, il aurait eu un berger allemand, image viriliste, je veux bien, le lévrier et pas. C'est pas le symbole de la virilité.
Non, mais c'est le chiffre, en fait, c'est le nombre, c'est la quantité, c'est le quantitatif, en fait, voilà, qui fait. Il est entouré, puis c'est toute cette espèce de tout est mis en scène chez lui, voilà. Tout est mis en scène.
Il est en scène aussi avec des animaux.
C'est pas Gabriel Attal qui se prendra en photo avec son chien.
Moi, il y a un truc.
Non, c'est en kebab.
C'est un cadeau diplomatique, en fait.
On ne refuse pas un cadeau.
Si on lui offre un éléphant.
La plupart des cadeaux, ils vont dans le musée. Tu mets pas le lévrier dans les musées.
Non, mais sérieux, tu peux pas refuser. Non, mais tu
enfin, un chien, c'est une charge.
Si on lui offre un crocodile.
Mais il y a de la place.
Si on lui offre un crocodile un jour. Il fait quoi?
Mais bah, il l'offre
aux
autres.
Il met dans la scène.
Il l'offre à toi.
Mais non, par exemple, quand un meuble qui est offert, après, ça n'appartient pas au président de la République.
Oui, mais c'est pas un meuble, c'est un chien.
Après, c'est remis au Mobilier National.
Oui.
Là, peut-être que. Bon,
le lévrier va pas être envahi en musée.
Il sera donné à quelqu'un ou pas.
Ah, bah, mais super. Là, c'est formidable.
Bon, Marc Kadhafi avait offert un chameau à Nicolas Sarkozy.
Oui, mais il l'a pas gardé, ça.
Il est aux autres Vincennes.
Moi, j'ai un problème avec les photos de Soizic de la Moissonnière, qui est la photographe officielle de l'Élysée, qui est certainement une très bonne photographe, mais alors par contre, elle n'a pas du tout le sens du ridicule, et elle fait cette mise en scène permanente qui confine au culte de la personnalité de Macron, qui en plus, étant un très mauvais acteur, surjoue sur les photos à la tête de la planète, qui va dicter son comportement à tout le monde. C'est un conte qui est absolument grotesque et qui, effectivement, je trouvais très dérangeant parce qu'il confine au culte de la personnalité.
Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience des photos de notre président de la République, torse nu, tatoué, en train de faire de la boxe, avec ses chiens autour de lui.
Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux le voir en pyjama quand il se lave les dents?
Non, je veux pas le voir. Je veux le voir bosser, en fait.
Mais il n'est pas obligé de se mettre en scène en train de boxer alors qu'il a même pas.
Il a le droit de faire du sport, c'est les JO. Excusez-moi.
Tout le monde. Et Giscard avec l'accordéon, on en parlait hier.
C'était grotesque aussi. Mais va pas me faire dire que Giscard n'était pas grotesque.
Moi, j'aimais bien l'accordéon qu'il disait, là, ça vous va, là.
Bah, c'était un peu plus digne, ouais.
Ah oui, d'accord. Bah,
je sais,
le sport n'est pas digne.
Je sais que j'aime pas... non, mais... Là,
non, c'est la mise en scène, c'est la mise en scène.
Mitterrand, quand il disait, c'était pas une mise en scène.
N'essayez pas de me faire dire du bien de Mitterrand, vous n'y arriverez pas.
Non, du mal, tu veux dire.
Non, du bien, je le déteste.
Mon idole politique, tu sais,
Mitterrand. Taisez-vous. Les justifications du jour.
Quoi que je fasse, il y aurait eu des critiques. Dans le journal Le Parisien, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, neurologue de formation, explique son choix de reconversion dans la chirurgie esthétique et sa prochaine intégration dans une clinique des Champs-Élysées. Il indique notamment vouloir se consacrer au bien-être de ses patients. Je ne toucherai, je cite, ni à des pénis, ni à des fessiers. Je serai très loin des prothèses mammaires. Il rappelle que 15% de la population adulte française a recours à des soins de médecine esthétique.
Est-ce que ça vous gêne, vous Yael Mellul, en fait, qu'Olivier Véran soit devenu médecin esthétique, ou est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, quoi?
Non, bah moi non, ça me gêne parce que il aurait dû travailler à l'hôpital public. C'est pas comme si on n'avait pas besoin. Il est neurologue, non?
Ouais.
Voilà. Donc c'est pas comme si on n'avait pas un besoin très très important dans cette spécialité. Donc
en médecine esthétique aussi, manifestement, vu le boom de la médecine esthétique en France.
Oui, mais ce n'est pas une activité essentielle.
Non, voilà, c'est pas une activité.
Voilà, un vocabulaire qui lui a été cher.
Absolument. Donc ça vient en fait contredire tout ce que lui-même nous apprenait sur l'hôpital public. Enfin, je veux dire, et puis ces déclarations là, je vais pas toucher au pénis. Enfin, je veux dire, mais c'est quoi ce niveau en fait?
Non, mais excuse-moi, mais si.
Mais quel est le niveau? On en est où, quoi?
Mais si, mais en fait, ce qu'on lui reprochait, c'est de dire, il va mettre des prothèses mammaires et faire de l'allongement de pénis, quoi. Grosso modo. Donc lui, il dit, non. Lui, et ce qu'il explique, c'est que il veut faire ça pour réparer, par exemple, des cicatrices.
Bien sûr. Et pas pour l'argent.
Mais écoute, en tout cas, il n'en a pas parlé.
Oui, bien sûr.
Non, mais à un moment, il faut qu'on arrête. Non, mais franchement, les gens font ce qu'ils veulent, quoi.
Pas les responsables publics.
Excuse-moi, je l'ai payé, moi, avec mes impôts. J'ai payé Olivier Véran quand il était ministre. Maintenant, je ne le paye plus avec mes impôts. Il ne fait plus un rond, il fait ce qu'il veut.
Non, mais évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, mais ça traduit quand même un certain état d'esprit. Ce type qui a été ministre de la Santé, qui a eu à gérer les déserts médicaux, qui a eu à gérer le fait que. On n'arrive plus à trouver de médecins dans un certain nombre de villes et spécialités. Tout à coup, sous prétexte qu'il n'est plus ministre, il pense qu'à sa gueule et à faire du fric.
S'il avait vraiment pensé qu'à sa gueule, il aurait été déjà médecin avant, il aurait gagné beaucoup plus d'argent, il aurait été moins emmerdé, moins insulté, gérer la crise Covid. Parce qu'il aurait gagné beaucoup plus d'argent comme médecin que comme ministre.
Le pouvoir, il n'a pas choisi depuis être au gouvernement.
Et puis franchement, moi, par ailleurs, c'est un phénomène général, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de hauts fonctionnaires qui pantouflent, de ministres qui passent dans le privé, de chefs d'État qui font des conférences. Oui, mais c'est grotesque. On a l'impression que c'est vraiment, il y a un sens de l'État qui se perd absolument, un sens de l'intérêt général.
L'État, c'est pas le monastère. Là, tu rentres
pas. Mais si tu veux, c'est le décalage entre son attitude actuelle et avec ses discours du passé.